Nous nous intéressons aujourd'hui à la paracha Emor. Comme la précédente, Kiddushim, cette paracha va présenter des prescriptions en vue de la sainteté des personnes. Mais la précédente concernait tout hébreu. Au contraire, la paracha Emor va s'intéresser spécifiquement aux prêtres. D'ailleurs, le titre exprime ce sujet majeur de cette paracha. Parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur. Donc, le sujet est posé. Certes, la paracha va aborder d'autres sujets ultérieurement. Intéressons-nous d'abord à celui-ci. Les Cohen sont astreints à une discipline particulière pour leur service au temple. Ils en sont, par exemple, privés en cas d'impureté ou d'infirmité, ou même pour le choix de leur conjoint, car ils ne peuvent épouser certaines catégories de femmes permises au reste du peuple. Ils doivent par ailleurs éviter tout contact avec la mort, sauf en cas de nécessité, pour les derniers devoirs dus à six types de proches, père, mère, fils, fille, sœur non mariée, frère. Le grand prêtre est astreint à des exigences de pureté encore plus grandes que celles exigées pour les Cohen ordinaires. En fait, après les prescriptions sur les sacrifices des fêtes, la paracha va s'attarder aussi sur les exigences en matière de pureté des sacrifices. Autre sujet, après la sainteté des personnes, la paracha va s'intéresser à la sainteté du temps. Et on voit exposer différents sujets sur les fêtes, différentes lois sur les fêtes, et en particulier le sacrifice pascal, et ceux des 7 jours de Pessah. Et également la question du homer sur les prémices de la moisson d'orge. Cette fête de Shavuot étant l'aboutissement, en définitive, de Pessah. Le 50e jour compte, après le compte des 49 jours suivant l'offrande du homer, eh bien, on a la fête de Shavuot. Bon, laissons maintenant ces sujets détaillés sur la paracha pour nous intéresser à un sujet particulier qui est celui de l'impossibilité pour nous de séparer Pessah et Shavuot. C'est une même notion, en fait. Et on a à ce propos une controverse majeure qui s'est déclenché à l'époque du Second Temple entre les pharisiens et les sadducéens. Voyons les choses. La difficulté, c'est que on n'aboutit pas au même début du conte. Pour le judaïsme rabbinique et donc pour les pharisiens, dont le judaïsme rabbinique est l'héritier, le conte commence le 2e jour de Pessah et il fournit donc un exemple des divergences avec les tsadoukim, les sadducéens. Alors, les sadducéens, qui est-ce? C'est une famille sacerdotale, donc c'est des kohanim, descendants de Tsadok. Et les grands prêtres, les Kohen Gadol, seront issus de cette famille jusqu'à l'époque des Maccabées. Le prophète Yéhézkel, qui a vécu la déportation de Babel avec les premiers exilés, tenait en très haute estime les prêtres issus de cette famille, car il a même écrit, ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de Hachem pour le servir. Mais ultérieurement, les Sadducéens ont évolué. En fait, c'était une élite riche et politiquement cadrée dans le pouvoir. Ils avaient le pouvoir. L'intérêt de l'État primer l'intérêt de la doctrine et de la loi judaïque. Ça, c'est un historien du 19e, excusez-moi, du 19e siècle qui le dit, Gratz. Il explique qu'en fait, la piété n'occupait que la seconde place dans leur esprit. Et parmi les nombreux sujets de controverse, il y en a un qui était celui de l'immortalité de l'âme. Les Sadducéens ne rejetaient pas totalement cette croyance, mais ils rejetaient absolument l'idée d'une justice réparatrice après la mort. De même, il y avait toute une série d'oppositions, et j'aborde ce sujet à présent parce qu'il y a une de ces controverses, c'est justement sur la date de Shavuot. Il considérait la halakha uniquement selon leur compréhension de la Torah écrite. C'est-à-dire que pour les Sadducéens, le pardès n'était pas pris en compte. On ne prenait que le P du pardès, que le pshat. Le pshat était pour eux la manière de comprendre la Torah. Ils niaient la valeur de la Torah orale. Or, nous le savons, la Torah orale a été donnée en même temps que la Torah écrite au Sinaï. Et c'est dans la Torah orale que l'on trouve ce que nous avons appelé la boîte à outils, toute une série d'outils d'interprétation que les Mefarshim, les commentateurs, ceux qui expliquent la Torah, eh bien, ont à leur portée pour pouvoir approfondir ou même révéler le sens de la Torah écrite. Eh bien, là-dessus, non. Les Sadducéens n'étaient pas du tout d'accord. Le pardès, ils n'allaient pas le considérer. Ils ne considéraient que le pshat. Et pour eux, ils ne considéraient comme loi que ce qui était écrit, très strictement. Alors que la Torah orale avait été transmise depuis Moshe Rabbeinu, mais oralement, elle n'était pas écrite forcément. Donc, plusieurs controverses, et parmi toutes ces controverses, on va en aborder une qui concerne directement le sujet de la date de Shavuot. La date de Shavuot, pour les Sadducéens, devait toujours tomber un dimanche. C'est-à-dire, selon eux, le 50e jour, certes, vous voyez là-dessus, ils sont quand même conformes, bien sûr, puisque la Torah parle de la 50e jour, quoi, de ce compte-là, mais après le Shabbat qui suit la fête de Pessah. Ils expliquaient clairement que ce ne pouvait avoir lieu que selon ce qui est écrit dans la Torah. Or, qu'est-il écrit? Il est écrit en effet, Mima Horat à Shabbat. Donc, Mima Horat à Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat, donc le dimanche, le Yom Aleph, Yom Rishon. Donc, pour eux, Shabbat signifiait Shabbat, le jour de la semaine que l'on appelle Shabbat, alors que dans la compréhension de la Torah orale, Mima Horat à Shabbat signifie lendemain du jour du repos. Ils attendaient donc les Sadducéens. Ils attendaient le lendemain du Shabbat qui suivait le début de Pessah pour commencer à compter. Alors, que je m'explique bien pour qu'on comprenne exactement ce point particulier, le lendemain du jour du repos, Mima Horat à Shabbat, ça signifie le deuxième jour de Pessah. Pour le judaïsme des pharisiens, qui vivaient en même temps qu'à l'époque où vivaient les Sadducéens, mais les pharisiens ont eu une école qui se poursuit jusqu'à nous, puisque le judaïsme rabbinique est totalement issu. Il est issu du courant pharisien. Les Sadducéens n'ont pas survécu à la chute du deuxième temple. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout leur pouvoir et tout leur, aussi politique et religieux, était lié donc à l'État et au temple. Le temple ayant disparu, leur pouvoir a disparu et les Sadducéens ont pu continuer à enseigner au peuple. Donc, que faisaient les Sadducéens? Mima Chorat à Shabbat, ils comprenaient donc qu'il fallait, après avoir fait le premier seder de Pessah, le lendemain c'était le deuxième jour de Pessah, mais si ce n'était pas Shabbat, non, ils ne comptaient pas. Ils attendaient qu'arrive le jour de Shabbat pour compter. Et le jour de Shabbat pouvait avoir lieu, par exemple, un vendredi. Non, que je veux dire, après le jour de Shabbat, après le jour de Shabbat, ah non, après la fête, après le premier soir de Pessah, après le premier jour de Pessah, c'était le deuxième jour de fête. Mais les Sadducéens ne comptaient pas si ce deuxième jour de fête n'était pas Shabbat. En revanche, ils pouvaient attendre 3, 4, 5 jours jusqu'à ce que vienne le Shabbat, et le lendemain du Shabbat, ils comptaient. Ce qui fait qu'on pouvait très bien se retrouver avec un compte qui démarrait non pas le deuxième jour de Pessah, mais le quatrième jour de Pessah, ou le sixième jour de Pessah. Donc vous voyez que Shavuot n'était plus lié à Pessah. Pour les Sadducéens, Shavuot pouvait donc survenir jusqu'à 56 jours après Pessah, au lieu de 50 jours. On a donc une controverse forte sur la date de fixation de Shavuot. On pourrait considérer que, après tout, c'est secondaire, c'est technique, c'est une question de calendrier. Mais on aurait tort de croire cela, car le refus des Sadducéens, c'était celui du lien entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Leur refus était en fait le refus du sens profond de Pessah. Pessah n'est pas une date de calendrier national, ce n'est pas une date de libération nationale, de libération physique. Certes, c'était une libération physique d'un peuple qui avait été soumis à une oppression étrangère cruelle, mais ce n'est pas le sens que revêt la sortie d'Égypte pour Moïse. Et ni d'ailleurs pour ses successeurs pharisiens et tout le judaïsme rabbinique jusqu'à nous. La sortie d'Égypte est inséparable du don de la Torah. Pessah commémorait la fin de l'esclavage matériel, certes, mais grâce à Shavuot, cette sortie d'Égypte, cette fin de l'esclavage matériel, prenait une toute autre dimension. Cette fête ne commémore donc pas seulement un mouvement de l'histoire d'Israël, fin de l'angoisse, fin de la souffrance, fin de l'oppression, liberté enfin, oui, mais être libre, pourquoi? Pourquoi faire? Pessah commémore surtout la fin de l'assimilation à d'autres cultures, la fin de la chute fatale vers la destruction et annonce la libération spirituelle avec l'accueil du don de la Torah. Cet accueil de la Torah vient couronner la libération physique en lui donnant du sens. Et là, au pied du mont Sinaï, comme aujourd'hui pour chacun de nous, pendant cette période du Homer, eh bien, nous attendons Shavuot qui donne du sens à Pessah. Je vous remercie.